Merci Seigneur. Je voudrais qu'on puisse ouvrir la Bible dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 55 et le verset 6. Voilà ce qu'il y est écrit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Première chose que nous voyons dans ce verset, la première vérité qui en ressort, c'est qu'il y a un temps dans lequel l'Éternel se trouve encore. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire aussi qu'il y aura un temps où ça ne sera plus le cas. Ça veut dire qu'il y aura un temps où ça sera fini, le temps où la grâce sera terminée, et ça sera le temps de la colère. Et quand nous regardons l'actualité, nous voyons, nous discernons les prémices de cette colère, et combien nous ne voulons pas vivre ces temps de la colère de Dieu, mais nous voulons saisir la grâce de Dieu qui nous est offerte ce soir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais ce que je trouvais intéressant dans ce texte, oui, il y a cette vérité-là, mais il y a aussi le fait que quand il nous est invité, conseillé de chercher l'Éternel, tout de suite, c'est focalisé sur les pensées. Alors que nous, je ne sais pas comment vous êtes, mais quand on vous dit « chercher l'Éternel », pour vous, chercher l'Éternel, pour moi, c'est ben, « il faut aller à l'église, il faut que je lise la Bible, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela ». Invoquer l'Éternel, c'est faire peut-être de belles prières que les gens vont approuver. Non, ça se passe à l'intérieur. Voilà le message qui est donné, tout simplement dans ces versets. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, ça veut dire aussi, la suite logique, c'est que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité qu'il abandonne ses pensées. Il y a un travail véritablement intérieur quand on veut chercher l'Éternel. Vers quoi est-ce que nos pensées se portent ce soir et tous les jours de notre vie? Et s'il y a des pensées qui sont mauvaises, s'il y a des pensées d'iniquité, est-ce que nous voulons accepter le conseil de la parole, de les abandonner, de les laisser en arrière, et puis d'avancer sur ce chemin de la vie que le Seigneur a tracé pour nous? Regardez avec moi dans Genèse chapitre 6, on va voir l'exemple de certaines personnes qui pensaient à certaines choses. Genèse chapitre 6, le verset 5, et quand on voit ce dont il est question à ce moment-là, on comprend pourquoi il y a eu le déluge. C'est quelque chose qui, quand même, quand on réfléchit au déluge, on se dit, ça paraît très sévère, ça paraît dur, mais quand on lit ces passages qui nous expliquent un petit peu ce qui se passait à l'époque, on comprend pourquoi le Seigneur a permis cela. Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Vous vous rendez compte de ce qu'il est écrit ? Toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Mais Dieu a vu un homme qui a eu la foi, qui l'a craint, qui avait cette piété véritable, et il a permis qu'il soit sauvé, lui et sa famille, et c'est quelque chose qui nous encourage. Et nous, quand Jésus prend un exemple dans l'Ancien Testament pour comparer la fin des temps, il prend l'exemple de ce qui se passait au temps de Noé. Et je crois que dans les temps dans lesquels on est, on se rend bien compte que c'est ce qui est en train de se passer. Même si on n'est pas peut-être encore à 100% de ce moment-là où les gens sont omnibulés par le mal, mais en tout cas, on en est bien proche. Mais quelqu'un va dire, mais moi, pour prendre l'actualité, moi je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un homme inique, je ne suis pas méchant aux yeux de Dieu, j'ai jamais tué personne. Est-ce qu'il suffit d'avoir tué quelqu'un de ne pas avoir tué quelqu'un plutôt pour se trouver juste aux yeux de Dieu? Est-ce que justement on n'a pas besoin de quelque chose qui puisse nous indiquer si on est juste ou pas juste? Parce que quand on prend le mot unique, ça veut dire littéralement injuste, quelqu'un qui ne fait pas ce qui est droit. Qui c'est qui nous dit ce qui est droit, ce qu'on doit faire qui est droit ou ce qu'on doit faire qui n'est pas droit, ce qu'on ne doit pas faire qui n'est pas droit? Qui c'est qui nous le dit? Il y a un verset de la parole qui nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Et juste à la fin, il est dit, elle juge les pensées et les sentiments des cœurs. Elle juge nos pensées. Qui c'est qui va pouvoir se permettre de juger nos pensées, de savoir si ce qu'on pense est bien ou mal, si ce n'est la parole de Dieu? Et nous lisons, par exemple, dans le psaume 10, un exemple d'un homme, c'est un homme méchant. Voilà ce que qualifie la parole de Dieu d'un homme qui est méchant, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il dit beaucoup de choses dans son cœur. Il y a beaucoup de pensées qui sont là dans son cœur, qui s'animent, et peut-être que, et sûrement même qu'il doit abandonner ses pensées. Il dit en son cœur, au verset 6, par exemple, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Quand on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, « Pour toujours, je vais m'en sortir. » Quelqu'un peut-être ce soir penserait ça. La Bible dit que c'est un homme qui est méchant, qui est inique. Quelqu'un qui pense, au verset 11, il est dit, « Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. » Quelqu'un qui pense que Dieu oublie. Dieu a créé l'humanité, mais il s'en occupe plus. C'est une pensée qui n'est pas juste. Parce que Dieu est profondément intéressé à ce que tous les hommes, les pécheurs, puissent accéder à sa grâce, puissent être sauvés, puissent être remplis de son amour et puissent vivre dès à présent sur la terre cette vie qu'il veut qu'ils vivent. Dieu n'est pas juste. Au verset 13, il est dit « Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas ?» Croire que Dieu ne punit pas. Croire que Dieu est injuste. Est-ce qu'on n'est pas entouré de gens ? Peut-être même quelqu'un ce soir est dans cet aspect-là, mais pourquoi Dieu permet certaines choses ? Mais Dieu, la Bible nous dit qu'il fera parfaitement justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit. Et souvent, on regarde à Dieu, mais on devrait d'abord regarder à nous-mêmes et dire, est-ce que c'est pas le problème ne vient pas de nous ? De Psaume 14, juste après, l'insensé dit en ton cœur, il n'y a point de Dieu. Est-ce que c'est une bonne pensée ? La Bible dit non, c'est l'insensé qui dit cette pensée-là. En tout cas, il y a beaucoup de pensées qui sont là, on pourrait multiplier. Juste une dernière, quelqu'un qui dit en son cœur, « Moi et rien que moi ». On en connaît des personnes comme ça, malheureusement, qui pensent que tout ce qui les touche à eux, c'est ça qui est important, tout le reste, les autres, tant qu'ils ne contribuent pas à leur bien-être, ça, ils ne sont pas utiles. Abandonnons ces pensées. Laissons la parole de Dieu juger nos pensées, nous dire ce qui est bon, nous dire ce qui est mal. Quel est l'objet de nos pensées ce soir ? Est-ce que c'est mon bien-être à moi ? Est-ce que c'est mon intérêt ? Est-ce que c'est seulement ma famille ? Est-ce que c'est toutes sortes de choses, mon travail, les soucis de la vie ? Quelle est la place de Dieu surtout dans nos pensées ? C'est ça le plus important finalement. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et face à cette pensée, comment réagissons-nous ? Qu'est-ce que nous disons ? Est-ce que nous le mettons de côté, nous laissons justement toutes les autres pensées prendre le dessus ? Ou est-ce que nous disons, mais c'est vrai que par rapport à mon éternité, je veux y réfléchir. Je veux profiter peut-être de cette occasion ce soir pour avoir une assurance, l'assurance que Dieu veut me donner. La place que Dieu a dans nos pensées, ça détermine si nous sommes méchants ou pas. Si nous avons laissé à Dieu la place dans notre cœur, si nous avons ouvert notre cœur et dit « Seigneur, oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes me remplir », alors le Seigneur va nous effacer notre méchanceté, effacer notre péché et va nous permettre d'avancer. Mais si ce n'est pas le cas, on a besoin d'abandonner certaines pensées, abandonner. Je pensais à cet exemple tellement simple, mais quand on va voir le docteur et qu'il nous dit « Voilà où est le mal ?» À quoi servirait-il de savoir où est le mal si on ne prend pas les médicaments pour faire que le mal s'en aille ? À quoi servirait-il de savoir qu'on a des pensées méchantes si ce n'est pas pour abandonner ses pensées ? À quoi ça servirait ? À rien. Pour retourner à Dieu, il faut regarder à l'intérieur de notre cœur, comme le fils prodigue qui est rentré en lui-même, qui a regardé en lui-même dans son cœur ce qui se passait et qui s'est rendu compte que le problème, ce n'était pas son père, que ce problème, ce n'était pas l'éducation qu'il avait reçue, le problème, c'était lui. Le problème, c'est qu'il avait tellement reçu, mais qu'il avait tout gaspillé, mais qu'auprès de son père, il allait pouvoir retrouver quelque chose. Et plus qu'il a retrouvé, d'ailleurs, plus que ce qu'il pensait retrouver, ce fils prodigue. Je voudrais pas m'attarder plus, mais aller dans les deux rois, chapitre 5, voir cette histoire de Naaman qui nous montre justement un homme qui était dans un état d'esprit, qui avait toutes sortes de pensées dans son cœur, mais qui avait une progression dans ses pensées. Il n'est pas resté dans sa tristesse, il n'est pas resté dans son accablement. Il a connu la guérison, il a été touché par le Seigneur, et il est passé de l'affliction à l'adoration dans son cœur. Et c'est un bon exemple pour nous ce soir, de ce que nous devons faire. Deux Rois, chapitre 5, il est dit au verset 1er, « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. » Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et parlait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, et si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une chair de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Amen. Amen. Une histoire qui nous relate ce qui s'est passé pour cet homme, et on voit qu'en quelques versets, une vingtaine de versets, mais en quelques jours, d'un point de vue chronologique, il s'est passé une transformation dans la vie de cet homme qui était dans l'affliction. Il avait beau être le chef de l'armée du roi de Syrie, et à l'époque l'armée du roi de Syrie c'était une puissance, c'était la Syrie, c'était une puissance presque mondiale, une puissance en tout cas, un empire, et lui il était le chef de l'armée, le premier ministre de cette armée, ministre de la Défense, on pourrait dire. En tout cas, il avait beau avoir tous les honneurs, il avait beau avoir toutes les richesses, il avait beau avoir tout ce que les hommes rêvent d'avoir dans ce monde, il était malheureux, parce qu'il était malade, et rien ne pouvait changer à sa situation. Voilà la pensée déjà qui occupait son cœur. Rien ne peut changer ma situation. Est-ce que des fois, dans nos vies, on n'est pas dans des endroits, des circonstances qui font qu'on a cette pensée-là, ben, il n'y a rien qui va pouvoir changer ma situation. Et puis, Dieu s'est servi d'un grand, puissant évangéliste qui passait par là, une toute petite fille, qui a simplement dit, mais si le prophète, si Naaman il était auprès du prophète, il pourrait avoir la guérison. Et je pensais à cette petite fille qui avait été enlevée à sa famille, qui était captive, qui était prisonnière, qui n'a pas laissé l'amertume, qui n'a pas laissé la tristesse dans son cœur empêcher de témoigner. Des fois on dit, mais celui-là, il m'a fait du mal, alors c'est bien fait pour lui ce qui lui arrive. Cette petite fille, toute simple, elle a dit, « Moi, je connais quelqu'un qui pourrait lui faire du bien à cet homme. Un homme de Dieu qui va pouvoir prier pour Naaman. » Et c'est ce qu'elle a fait tout simplement. Comment est-ce que nous réagissons, nous, dans l'épreuve? Comment est-ce que nous réagissons quand nous sommes dans une situation difficile? Et la deuxième pensée qui est venue suite à ce témoignage, c'est que quelqu'un en Israël pouvait faire quelque chose pour lui. Bon, ça commençait à se préciser, même si ce n'était pas ça le plus important, parce que nous savons, nous, que c'est Dieu qui a utilisé Élisée et qui a donné une parole à Élisée pour qu'il y ait la guérison. Mais en tout cas, il avait déjà la direction, l'endroit où aller, et il a commencé à retrouver espoir. Et je crois que quand nous avons une parole qui vient de la part de Dieu, l'espoir rejaillit à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit que Jésus est celui qui suscite la foi. Des fois, on ne sait pas comment il faut faire pour avoir la foi, mais Jésus est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et quand nous tournons les yeux vers Jésus-Christ, c'est ce qui se passe. Ce soir, quelqu'un a peut-être besoin d'entendre cette parole, qu'il est dans le découragement. Mais regarde à Jésus, on l'a chanté. Regarde à Jésus, regarde à la croix, cette œuvre merveilleuse. Et crois que le Seigneur veut te bénir. Crois que le Seigneur veut effacer ton péché. Crois que le Seigneur veut te permettre d'abandonner toutes ces pensées. Crois que le Seigneur veut te donner quelque chose de nouveau, te redonner espoir. Mais la troisième pensée qui est venue dans le cœur de Naaman, c'est quoi? C'est que le roi d'Israël, il ne peut rien pour moi. Je croyais trouver en Israël quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Et quand il y arrive, cet homme, il voit que le roi d'Israël, il est totalement inquiet. Quand il déchirait les vêtements, c'était un synonyme de deuil. C'est-à-dire que le roi, il a vraiment, vraiment lui perdu totalement espoir. Et puis, il y a cette parole qui m'a interpellé au verset 8. Quand Élisée fait appeler Naaman, il lui dit, mais il saura qu'il y a un prophète en Israël. On dirait, dit comme ça, que le roi lui-même, il avait oublié qu'il y avait un prophète. Le roi lui-même, à cause de l'accablement, de son péché, l'aveuglement qui était là, parce que ce roi, il était méchant, ce roi, il s'était détourné de Dieu, il était dans l'idolâtrie. Le résultat, c'est qu'il avait même oublié qu'il y avait un prophète. Et il voyait les choses de manière humaine. Et quand il voit une lettre du roi de Syrie qui lui demande de guérir, lui, il s'est dit, mais comment je vais faire? Au lieu de se dire, mais moi, je connais un homme qui peut intervenir pour lui. Et est-ce qu'on n'a pas des fois été déçu par des hommes? Est-ce qu'on n'a pas des fois été déçu par des femmes? Des humains, je veux dire. Hein. Est-ce qu'on n'a pas été déçu par des personnes auprès de qui on pensait retrouver quelque chose, qui allait être notre soutien? Des fois, on entend des personnes, moi-même, quand j'étais plus jeune, été dans des églises où je pensais trouver un soutien, de l'amour, et puis... Je venais à la réunion et personne ne s'adressait à moi, personne ne regardait vers moi, et à la fin tout le monde m'ignorait, et je trouvais ça dommage quand même que l'amour de Dieu ne soit pas répandu auprès des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Personne ne savait que moi j'appartenais au Seigneur. Et je me suis dit, mais si les gens réagissent de la même manière envers des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, après on s'étonne que les églises se vident, mais par la grâce de Dieu. Si nous regardons à Jésus, il est fidèle. Et justement, ce que nous avons lu en premier, c'était quoi? Chercher l'Éternel. Il n'est pas question de chercher un homme. Il n'est pas question de chercher les conseils d'un homme. Il est question de chercher l'Éternel. C'est lui qu'il faut chercher. Quand on regarde l'histoire de Naaman, l'histoire d'Élisée, on se rend compte que celui qui a vu que Naaman il avait un problème, alors qu'il était dans sa tristesse et son affliction, qui c'est qu'il a vu? C'est pas Élisée, c'est Dieu qui l'a vu. Et qui a permis que cette petite jeune fille donne un mot d'espoir à cet homme. Qui c'est qui a permis que Élisée puisse avoir une parole qui permette la guérison? Et qui c'est qui a guéri en plus? C'est Dieu. Voilà pourquoi, même si on est blessé par les hommes, même si on est déçu, c'est toujours à Dieu qu'il faut regarder, c'est toujours l'Éternel qu'il faut chercher. Comme Dieu a tout dirigé pour Naaman, Dieu a tout prévu pour chacun d'entre nous, pour nous sortir du péché, pour nous aider à ce que nous abandonnions nos pensées mauvaises. Et il y a une progression qui continue encore. La progression qui suit, c'est que Élisée lui dit, voilà, il faut que tu ailles te plonger sept fois dans le Jourdain, mais en plus il lui dit de manière par personne interposée, c'est-à-dire il ne se déplace pas lui-même. Et Naaman, il est là, et je crois que la plus grande pensée qu'il avait à ce moment-là, c'est, mais pour qui il se prend ce prophète? Je ne sais pas si, comment je m'imagine l'histoire, et je me dis que cet homme qui avait l'habitude de recevoir les honneurs, qui avait l'habitude d'être considéré, il voit que le prophète, il ne s'est même pas déplacé en personne. Il a fait dire à son serviteur, « Quoi? Moi qui suis le chef de l'armée, moi qui suis le chef de l'armée du roi de Syrie, il ne me traite pas selon mon rang ?» Et je crois que c'était sciemment, c'était volontaire qu'Élisée fasse comme ça, parce qu'il avait besoin d'un moment de comprendre que devant Dieu, il n'y a exception de personne. On est tous à la même enseigne. Face au péché, on est tous à la même enseigne. Tous ont péché, la Bible nous dit. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Personne ne fait exception. même pas Naaman et toute sa richesse. Et quand on essaie de comprendre le plan de Dieu, ben, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a tellement de passages dans la parole où on voit que Dieu a béni, Dieu a utilisé des circonstances, que c'est pas ce que nous on aurait fait à ce moment-là. Quand on voit Moïse devant la mer Rouge, quand on voit ce que Dieu lui demande de faire, alors que les Égyptiens sont là prêts à leur foncer dessus, Dieu lui dit « Étends ton bâton ». Est-ce que c'est ce que vous auriez fait? Est-ce que c'est ce à quoi vous auriez pensé à ce moment-là? On est tous d'accord pour dire que c'est pas du tout ça. On aurait trouvé un moyen de peut-être faire un bateau pour traverser. Je ne sais pas s'il y avait des arbres autour. En tout cas, Moïse qui était soumis, il a fait ça. La mer s'est ouverte en deux par la puissance de Dieu. Quand on voit comment Jésus et Pierre qui devaient payer une taxe dans une ville, comment la solution que Jésus a donnée à Pierre, qui était en plus un pêcheur, il lui a dit va pêcher tel poisson à tel endroit et tu trouveras de quoi payer la taxe. Est-ce que c'est ce qu'on fait quand on doit payer les impôts, on va se mettre à pêcher? Donc on est d'accord que c'est pas ça qui se passe. C'est des choses qui nous dépassent parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et c'est vrai que quand on regarde de notre point de vue à nous, on n'arrive pas à le discerner cela. Et pour nous, ça paraît de la folie. Mais quand on comprend que Dieu qui est au-dessus de toute chose, Dieu qui est souverain sur toute situation, quand on a cette compréhension-là que lui a totalement sagesse et intelligence, et que sa parole est importante, alors nous pouvons mettre foi dans ce qu'il nous dit. Cinquième pensée qui est à peu près au même moment, je pense. Pour qui il se prend ce prophète? Mais son moyen de guérir, ça ne correspond pas à ce que j'avais prévu. On voit que Naaman s'était fait son film par rapport à ce qu'allait faire Élisée. Et il agitera sa main comme si il dira cela, enfin, toutes sortes de choses. Il se présentera lui-même, il invoquera son Dieu. Et on voit que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que des fois, on n'est pas coincé par rapport à l'action de Dieu? Parce qu'on dit, voilà, comme ça, c'est comme ça que Dieu doit faire dans ma vie. C'est comme ça que Dieu doit répondre à ma prière. Et s'il en sort, c'est pas bon, c'est pas ce que je veux. Et Naaman s'est retrouvé avec cette vérité, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La façon d'agir de Dieu, c'est ce que je disais jusqu'à présent, c'est pas la façon que nous, on a d'agir. Est-ce qu'on n'a pas besoin de se soumettre à ce que Dieu dit, que ça nous dérange ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, du moment que ça vient de Dieu, du moment que c'est quelque chose qui vient du Dieu Tout-Puissant? Heureusement, dans son cœur, il y a eu cette progression. Et à Naaman, qui avait toutes ses pensées, et combien on se reconnaît dans l'exemple de Naaman, on voit qu'il a abandonné tout ça. Oui, c'est vrai, c'est pas la façon dont je voulais que ça se passe, mais finalement, grâce à la sagesse de ses serviteurs, il a dit, finalement, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut la peine. Le jeu en vaut la chaudelle, parce que c'est quand même une guérison qui a lieu juste après. Ça ne coûte pas grand-chose, mais ça coûte quand même un petit peu. Parce que pour un homme de son apparat, le fait de se mettre en maillot, le fait d'aller se plonger dans la rivière, lui qui avait l'habitude de recevoir les honneurs et qui était là devant ses serviteurs dans une tenue lamentable, dans une tenue d'humilité, et le fait de se plonger, de ressortir tout mouillé, de se replonger, c'était, vous allez me dire, c'était facile. Se plonger, c'est pas difficile. Mais il y avait quand même tout ce contexte qui a fait que Naaman a dû s'humilier. Naaman a dû ravaler sa fierté. Naaman a accepté de paraître ridicule. Naaman a accepté aussi d'obéir jusqu'au bout. Et il a été guéri. Pour nous aussi, pour chacun de nous, c'est pas grand-chose quand on obéit au Seigneur. Mais ça coûte quand même quelque chose. On sent qu'il y a un effort à faire. Le fait de s'humilier devant Dieu, le fait de demander pardon pour son péché, le fait de se repentir, de se détourner du mal, le fait de laisser la parole de Christ nous laver, le fait de laisser son sang purifier notre âme. C'est pas difficile, mais il faut le faire quand même. Ça demande quand même un petit effort de notre part. Mais quand on considère ce que ça a coûté au Seigneur, alors on peut le faire peut-être de manière plus simple et plus vraie. Si nous devons nous humilier devant Dieu, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Seigneur Jésus a été humilié de manière publique. On l'a couronné d'épines, on s'est moqué de lui, on l'a humilié publiquement. Il était un sujet d'opprobre, c'est ce que ça veut dire, un sujet de honte. Mais c'était à la vue de tous, alors que Dieu nous demande à nous de nous humilier devant lui. Quand on considère qu'on peut obtenir le pardon de Dieu, c'est au prix du fait que Jésus a reçu la condamnation, qu'il a été cloué sur la croix comme un brigand. Et nous, il suffit qu'on demande pardon. Nous, il suffit qu'on dise « Seigneur, je regrette tout ce que j'ai fait », le Seigneur nous pardonne. Mais pour que ça arrive, Jésus a dû être condamné. Si nous pouvons nous détourner du mal, c'est que le mal qui est tombé sur Jésus, il a subi la souffrance, il a porté nos péchés, son sang a été versé pour nous. Si nous pouvons trouver la guérison ce soir, guérison physique, guérison intérieure, c'est parce que Jésus a versé son sang. Tout cela pour que ce soir, nous puissions expérimenter que Jésus guérit même la lèpre spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2 nous dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. » Et je crois que c'est cette pensée qui nous permet ce soir d'accéder à la vie nouvelle, accéder à la guérison de nos âmes, accéder au pardon de notre péché, le fait de considérer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et Naaman a accepté de se soumettre à la parole, Naaman a accepté d'obéir, et le résultat, c'est qu'il a été guéri. Mais il n'est pas resté là dans cet aspect de « Merci Seigneur, tu m'as guéri ». Il a compris que Dieu était le Dieu Tout-Puissant, celui qui devait devenir son Dieu, lui qui servait d'autres dieux dans son pays, lui qui faisait d'autres choses, qui avait des idoles sûrement. Il a dit « Maintenant, le Dieu d'Israël sera mon Dieu. » Il abandonne son ancienne vie et il choisit de vivre une vie nouvelle. Et je vais rapidement, mais il va jusqu'à demander que ses serviteurs lui prennent de la terre. Vous savez pourquoi il demandait ça? Parce que selon les croyances de l'époque, un Dieu ne pouvait être adoré que sur le sol correspondant au Dieu. Donc il pensait que le Dieu d'Israël pouvait être adoré que sur la terre d'Israël. Et donc il s'est dit « Je vais remplir mes paniers de la terre d'Israël pour pouvoir adorer Dieu. » Et même si on comprend ce qu'il voulait faire, et qu'on sait que Dieu pardonne la simplicité et la foi de ceux qui débutent, mais il avait quand même à cœur d'adorer le Seigneur. Et je trouve ça magnifique. Hein. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu finalement avant, en peu de jours, il a choisi de devenir un adorateur. Choisir de devenir quelqu'un qui allait plaire au Seigneur. Et le résultat, c'est qu'il s'en va. Élisée lui dit cette parole. Va en paix. Est-ce que ce soir, on n'a pas besoin, tous autant que nous sommes, surtout dans les temps dans lesquels on est, d'avoir la paix de Dieu? Je crois que le seul moyen, c'est de dire, oui Seigneur, je veux regarder à la croix. Je veux considérer dans mon cœur cette pensée de Jésus-Christ crucifié et laisser cette pensée agir dans ma vie et laisser cette pensée me convaincre peut-être de péché, me convaincre que je suis dans l'erreur ou me dire, ben justement, tu as été pardonné déjà et marcher dans cette assurance et marcher dans cette conviction que le Seigneur Jésus te prépare une place. Oui, Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui encore, quand on te cherche, on peut te trouver. Quand on t'invoque, tu es près de nous. Quand on va l'invoquer dans les quelques minutes qui vont venir, le Seigneur est près de nous. C'est pas merveilleux de se dire ça par le Saint-Esprit? Alors prions-le justement, invoquons son nom et disons-lui, Seigneur, tu connais ma vie, tu connais vers quoi se portent mes pensées ce soir. Et tu sais ce que j'ai besoin de faire, ce que j'ai besoin d'entendre, ce que j'ai besoin de te dire, Seigneur, pour que mon péché soit effacé. Merci Éternel pour ce que tu as fait à la croix, oui. Merci pour la pensée de Jésus crucifié. Merci pour la pensée de l'éternité qui travaille nos cœurs, Seigneur, jour après jour. Tu vois les amis qui sont là ce soir, merci. Oui, de répandre ta grâce à tous ceux qui acceptent de s'humilier devant toi, à tous ceux qui acceptent de saisir, tant qu'il est temps, ta main de grâce qui se tend vers eux. Oui, que par la foi, Seigneur, ils puissent saisir ta main, que par la foi, ils puissent, Seigneur, accéder à cet état d'esprit d'abandonner leurs pensées, abandonner les méchancetés, abandonner le cœur inique pour se saisir de ta paix, se saisir de ta joie, se saisir de ton amour. Rien dans ce monde, Seigneur, ne se compare à la paix que tu donnes quand un cœur a accepté de faire la paix avec toi. Merci Éternel pour ce que tu nous donnes avec toute simplicité. Merci pour l'exemple de cet homme, Seigneur, qui a été guéri. Seigneur, je crois que ce soir encore, tu veux guérir des cœurs. Je crois que ce soir encore, tu veux guérir des personnes qui sont malades à l'intérieur dans leur vie. Seigneur, des personnes qui sont dans des pensées mauvaises, des pensées qui les détournent de toi. Merci de les guérir dans ces instants et qu'ils puissent expérimenter ton secours, ta grâce et ta vie qui abonde en eux, Seigneur. pour la gloire de ton nom. Amen.